Alors moi c'est Dylan Cote, donc membre de OIE. Je fais du VJing et des installations et des performances audiovisuelles, notamment avec Pierre.
Bonjour, moi c'est Pierre, du coup aka Incognito. Ouais, bah, je travaille beaucoup avec Dylan sur l'installation, VJing. Dylan, il le dit pas trop, mais il fait aussi un peu de design sonore et de création musicale. Mais voilà, Taloula va peut-être se présenter maintenant.
Alors moi c'est Talula, je suis déjà passée à Planisphère une fois pendant une émission sur Oyé et je suis un des membres fondateurs comme Dylan. Donc je fais de VJing, des performances, un peu de spectacle, mais maintenant je me tourne aussi vers la recherche. Et cette année par exemple c'est ma principale activité, recherche en design et essayer d'analyser aussi en parallèle ce que fait Oyé en tant que collectif.
Comment est-ce que vous avez été amené à jouer à l'INA Sound?
Alors, on nous a proposé d'occuper une scène. Du coup, on a proposé une programmation avec du visuel où on passe des créations vidéo et on a proposé de faire des lives audiovisuels et des conférences. Donc, on a eu à peu près trois conférences, c'est ça? Et à peu près 5 live AV, il me semble.
C'est vrai que comme on avait tout de suite la possibilité en fait d'occuper une scène, ça nous a permis de faire une programmation assez lâche, assez variable, surtout qu'il y avait INA Sound en décembre au début. Donc comme ça a été annulé, on a rechangé un peu l'organisation des séances qu'on allait faire. Et en même temps, c'était assez libre. Donc dans les interstices un peu qu'il y a des vidéos que INA Sound voulait passer sur des tutos et des choses comme ça. Donc c'est assez, même si c'est une scène qui est un peu chapeautée par Oyé, il n'y a pas que du contenu Oyé dessus.
Quelle est pour vous la place de l'audiovisuel dans la création musicale aujourd'hui?
Bah, je pense que ça prend une place de plus en plus importante. Enfin, comme ce qu'on pouvait voir avec Jean-Michel Jarre, ça existe déjà depuis longtemps. Après, nous, c'est toujours dans le lien aussi. Comme on fait quand même du VJing à la base dans Oyé, c'est un exercice auquel on est assez habitué et qui fonctionne toujours assez bien de proposer une expérience un peu globale aux gens. Et après c'est à chaque date en fait un VJ va peut-être jouer avec un autre DJ et va essayer peut-être soit son set classique soit un peu de se réadapter visuellement pour proposer quelque chose de nouveau. Donc c'est un peu toujours une recherche constante qu'on fait visuellement et qui nous nourrit aussi entre nous. Donc c'est un exercice qu'on aime bien faire. Et là par rapport au fait d'avoir une scène à nous. C'est vrai que de pouvoir aussi gérer notre programmation un peu comme on le souhaite, c'est quelque chose qu'on a essayé l'été dernier avec le Oyé Circus, qui est une yourte en bambou de 6 mètres de diamètre, dans lequel il y a une scène vidéo projetée à 360 et dans lequel on fait la curation de la scène, on invite des artistes qui nous plaisent et qui sont un peu dans des domaines qui nous parlent. Et donc voilà, ça nous fait beaucoup plaisir d'être là.
Je pense que quand même si le VJing, ça existe comme pratique depuis longtemps, il y a quand même toujours un problème de reconnaissance en soi. Et que je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de membres d'Oyé, voire tous les membres d'Oyé, qui pratiquent aussi beaucoup d'autres choses à côté, notamment vraiment la construction de visuels pour un artiste, qui est quand même très différent du VJing, et aussi le... tout ce qui est performance audiovisuelle, même il y en a qui font des DJ sets maintenant, parce que je pense que le VJing c'est une pratique qui est importante et qu'il faut valoriser, mais aussi nous en tant qu'artistes visuels on a besoin d'avoir une richesse et une pluridisciplinarité pour se sentir un peu satisfait.
Pensez-vous que les pratiques audiovisuelles vont se démocratiser à l'avenir?
Bah là en tout cas nous on ressent une reconnaissance qui est de plus en plus présente et donc forcément ouais ça se démocratise davantage. On peut voir que ouais enfin comme disait Pierre et Taloula, on essaie de plus en plus de mettre en place des binômes VJ-DJ, alors qu'avant on était plutôt ça nous arrivait de faire des soirées où on faisait 6 ou 7 heures de VJing tout le long. Et c'était moins intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose de moins. On peut moins créer quelque chose, une narration un peu progressive. Et du coup, je pense que justement, les musiciens, les DJ sont intéressés par ça parce que il n'y a pas forcément une performance scénique hyper forte, notamment dans les musiques électroniques, parce que nous c'est là-dessus qu'on est beaucoup. Et nous on sent que c'est de plus en plus présent. Enfin, nous on voit, on tourne de plus en plus, on a de plus en plus de demandes, donc pour nous ça nous paraît assez positif.
Et là ce qui est assez bien avec Innasound et que je trouve qui marche bien, c'est justement de pouvoir se balader dans différentes scènes et qu'ils ne soient pas uniquement des scènes où par exemple il y a du VJing et du DJing, où tu auras une salle, bah là l'Acousmonium, où tu te poses sur des transats et tu as une spatialisation de l'image et du son. Donc moi c'est plus ce genre de format qui m'intéresse et vers lesquels j'aimerais aller. C'est-à-dire que tu ne vois pas le festival comme un endroit avec des scènes de musique où tu as un show forcément très calé, mais tu vas te balader dans des espaces qui sont peut-être parfois réappropriés par des gens et où tu as trouvé peut-être une installation artistique dans un angle, quelque chose qui en fait ouais, plus partir sur de la déambulation plutôt que sur vraiment une structure classique de scène et de gros line-up, et plus ouais d'aller vers quelque chose vers de l'errance et de, je sais pas, d'une sorte de moment un peu global où tu te balades et en fait tu vis une expérience qui est un peu globale, quoi.
Je pense que ce qui est bien dans ces expériences-là, c'est que ça plonge vraiment les visiteurs dans quelque chose qui a rapport avec la culture électronique, plus que la musique électronique. Et que c'est un tout, en fait. Et que tout est lié, même si la musique électronique est quand même quelque chose qui, culturellement, a dominé le paysage de la culture électronique. Je pense que des événements comme ça permettent de voir un peu les liens qu'il peut y avoir ou les non-liens, parce que certaines choses peuvent faire de... Certaines pratiques font des choses que d'autres ne peuvent pas faire, et c'est ça qui est important dans des expériences comme ça.
Quels sont vos projets en cours et à venir ?
Alors, on a différents projets. Donc, on a la yourte dont on parlait tout à l'heure, cette espèce d'espace itinérant qu'on peut installer dans différents festivals pour proposer une programmation sur laquelle on a la main. Avec de la vidéoprojection à 360. Donc ça c'est ce qu'on a fait, on l'a fait l'été dernier, on le refait cette année. Après on a quelques projets de scénographie, on a des projets d'installation. Donc par exemple avec Pierre là, on fait pas mal tourner une installation qui est une sorte de vidéo mapping qui est générée par des données qu'on capte dans l'espace. Et du coup qui génère du visuel et qui est une sorte de prétexte pour parler des questions autour des données qu'on émet sur internet notamment. Et sinon nous là pour l'Innasound avec Pierre on propose notre live audiovisuel qui s'appelle Ersatz. Tu m'en parlais.
Ouais. Du coup on va jouer Ersatz ce soir à 12h30. Donc c'est un live audiovisuel qui parle un peu de la topographie et des lieux dans un sens un peu large. C'est-à-dire qu'en fait nous on est parti d'une technique qui est la photogrammétrie. Donc c'est de faire en fait des scans 3D à partir de photographies. La manière un peu classique de faire, c'est de tourner autour d'un objet et de générer une modélisation 3D avec une texture photo qui se calque dessus. Et donc nous on a un peu décidé de prendre la chose autrement et de venir scanner Google Earth, en fait, parce que Google Earth propose des modélisations 3D, donc ils ont une manière un peu de vouloir scanner le monde et de le répertorier, en fait, de pouvoir te balader dedans, qui est intéressante mais qui est aussi un peu effrayante d'un autre côté. C'est-à-dire que parfois on va tomber sur des terrasses ou des piscines en haut d'immeubles, et on peut aussi arriver un peu à prendre un peu le pas sur la vie privée des gens. Et donc nous en fait on s'est dit ces modélisations 3D ont quand même pas mal de défauts qui sont là dus à la technique, en fait, qui est forcément un peu comment dire, bancale, parce que c'est difficile de transformer le réel en une modélisation 3D. Et donc en fait des artefacts qui se créent sur leur photogrammétrie. Et donc nous en fait de rescanner des scans 3D, ça amène une sorte de troisième artefact qui crée une sorte de monde un peu fictionnel. Et nous on a scénarisé la chose pour qu'au fur et à mesure que tu avances dans le live, tu te retrouves dans des sortes d'immeubles qui ressemblent plus trop à des immeubles, qui deviennent des sortes d'entités un peu effrayantes parfois. Et l'idée, c'est de se balader dans ce monde-là qui est totalement bancal et qui assume son côté fictif, quoi. Et donc pour l'occasion, on a fait une photogrammétrie du Palais Brongniart qu'on est venu intégrer au live. Donc à chaque fois qu'on va faire ce live quelque part, la dernière fois c'était il me semble à la Villette Makers pendant la nuit blanche. Donc on avait scanné pareil la géode et puis Villette Makers pour pouvoir l'intégrer au live, et en fait que pendant que les gens regardent le live, ils voient à un moment l'endroit où ils sont et ils le voient se faire déformer, se faire transformer. Donc c'est assez intéressant, ouais, d'amener un peu ce côté contextuel dans chaque endroit où on joue, et de pas avoir un live qui est totalement figé, quoi.
Alors moi personnellement, là je travaille sur un spectacle de danse, et puis comme je suis dans la recherche, j'écris des articles parce que je pense qu'avoir une analyse théorique de projet et que l'un enrichisse l'autre et vice versa permet aussi de renforcer ça renforce vraiment la pratique, en fait, de pouvoir justifier et pas que justifier, mais en fait trouver des concepts qui parfois correspondent à des pratiques, et ça permet de préciser des actions qu'on va avoir après. Je pense que Oyer est quand même dans un moment de transition en ce moment, où avant on était très dans des pratiques de vijing, et que là on se tourne tous sur des pratiques très live, audiovisuel, spectacle, œuvres d'art, design, ça dépend. Il y a aussi, comme on a parlé de la yourte, il y a aussi une sorte de design de la communauté qu'on essaye de mettre en place, et se dire c'est quoi de faire un espace où on va être tous ensemble, et c'est un peu compliqué en fait, et de se dire quelle modalité on peut utiliser. Mais on a commencé ça l'année dernière, il y a eu des succès, il y a eu des échecs, et c'est aussi une recherche pratique en cours, quoi.